Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons écouté Ulysse Gounel, 20 ans, nous parler de son action politique au sein d'un parti pro-européen. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un de ses collègues, Nathan. Alors, bonjour Nathan. Je vais vous demander d'abord de donner votre nom parce que je suis incapable de le prononcer.
Bonjour, oui, effectivement, c'est un nom un peu compliqué. On dit ça Douwe van Rooswijk, c'est donc un nom néerlandais et qui est assez drôle, veut dire le vieux du quartier de la Consolation en français.
D'accord, alors tout ça dans peu de mots, le vieux du quartier de la Consolation. Consolation, c'est joli quand même.
Ah, c'est très beau, hein. C'est un vieux nom néerlandais, donc moi j'en suis très très fier. Donc, oui, c'est très beau.
D'accord, donc on a compris, vous êtes néerlandais, vous êtes étudiant à l'Université libre de Bruxelles, vous êtes en sciences politiques aussi, et quel âge avez-vous?
Donc j'ai 20 ans.
20 ans aussi. Vous êtes des gens précoces dans ce parti politique. Alors, vous avez co-signé un article dans Réforme avec Ulysse Gounel. Donc, première question personnelle et peut-être indiscrète, vous êtes protestant aussi?
Oui, ma mère est pasteur donc, et mon père est théologien et philosophe, donc c'est dans la famille et je suis aussi protestant, oui.
D'accord. Protestant néerlandais, c'est un protestantisme assez dur, non?
Alors que ça dépend, parce qu'aux Pays-Bas, on compte des dizaines de mouvements protestants différents. C'est pas comme en France où c'est assez, où il y en a 3-4. Dans les Pays-Bas, il y en a beaucoup. Néanmoins, moi, je suis issu donc d'éducation par ma mère, de vraiment un mouvement réformé, calviniste, mais plutôt libéral. Donc, assez semblable au courant réformé libéral français.
D'accord. Alors, je reprends donc cet article dans Réforme. Vous affirmez donc le besoin de transcendance. Alors, transcendance, enfin, dans l'article, il y avait ce terme. Donc, transcendance, c'est un terme extrêmement connoté religieusement. Vous faites partie aussi donc de ce parti politique de Volt, dont vous pouvez rappeler quelques éléments. Pour ceux qui auraient oublié l'émission de la semaine dernière.
Ah oui, bien entendu. Donc, Volt, c'est le premier parti qui a été pensé comme un parti européen, donc qui prône un fédéralisme, donc le rassemblement des pays actuellement de l'Union européenne et des pays qui sont hors de l'Union européenne au sein d'une fédération, et qui est aussi une volonté de faire de la politique positive, c'est-à-dire de ne pas faire une politique contre quelque chose, mais une politique pour quelque chose. Donc voilà, pour résumer rapidement.
D'accord. Et donc dans ce parti, vous avez une fonction particulière?
Alors pas réellement. J'ai été candidat pour ce parti-là lors des dernières législatives, qui était réellement pour aider le parti à survivre. Mais néanmoins, je n'ai pas de fonction particulière au sein de ce parti. Je suis simplement membre.
Par contre, vous avez une fonction politique actuellement.
Oui, c'est exact. Actuellement, j'aide le chef de cabinet donc du commissaire fédéral à la jeunesse belge, donc qui est Monsieur Nicolas Fourny, et donc j'aide dans son cabinet pour tout ce qui est en matière de relations internationales ou sinon de soutien, notamment sur tout ce qui est les questions flamandes puisqu'il parle néerlandais et donc moi aussi. Donc c'est plus ou moins un rôle. Néanmoins, c'était un rôle apartisan, donc nous faisons partie d'aucun parti politique dans le cabinet pour le commissaire. Et ce qui explique pourquoi je ne suis pas aussi, je n'ai pas de poste dans Volt, et qui est donc, mais qui est éminemment politique, puisque nous défendons des idées pour la jeunesse.
Vous êtes donc néerlandais, vous êtes né aux Pays-Bas, vous parlez flamand d'origine. Vous êtes, votre langue maternelle, c'est quoi?
Alors, tout d'abord, je ne suis pas né aux Pays-Bas. Je suis né à Strasbourg, puisque mes parents sont venus ici en Alsace. J'ai trois nationalités. Donc, je suis suisse, français et néerlandais. Mais néanmoins, j'ai grandi en néerlandais, principalement de ma famille, mais en français dans juste l'éducation, la vie, etc. Donc, ce sont mes deux langues principales.
Oui, vous parlez parfaitement le français, donc totalement, aucun accent pratiquement. Et vous parlez aussi quelle langue? Donc, néerlandais, français, allemand peut-être?
Allemand, bien entendu, puisque l'Alsace permet d'avoir le côté allemand. Après, je dois dire qu'avec au fil du temps, ça s'effrite un peu, je dois le rattraper un peu, mon allemand. Mais aussi, bien entendu, anglais. Et je suis en train d'apprendre aussi le russe et l'ukrainien pour la situation actuelle. Et donc, j'essaye de diversifier un peu toutes mes langues.
Vous avez le temps de faire tout ça, les études, vous êtes directeur adjoint d'un cabinet, vous avez le temps?
Le temps, moi, je pense qu'il faut parfois prendre le temps. Et donc, j'apprécie ce que je fais. Et tant que j'apprécie ce que je fais, pour moi, je ne vois pas ça comme un travail ou comme un poids. Et surtout, pour apprendre les langues, moi, j'apprends les langues en faisant, donc en étant en contact avec les gens, etc., etc. Donc, ça rentre plus ou moins aussi dans le travail que je fais à côté, que ça soit pour le cabinet ou que ça soit aussi pour toutes les activités que j'ai plutôt dans la société civile.
Alors, en tout cas, merci de nous consacrer un peu de votre temps, donc parce que effectivement, vous semblez bien occupé. Alors, on va revenir sur ce besoin de transcendance. Alors, est-ce que quand on fait de la politique, comme c'est votre cas, aussi bien au sein d'un parti que dans votre fonction, donc est-ce qu'on parle de transcendance en politique? Est-ce que c'est pas mal vu de parler de transcendance?
Alors en fait, on en parle plus ou moins indirectement, c'est-à-dire que le mot transcendance, comme vous l'avez dit plus tôt, est assez connoté. Donc on ne va pas utiliser exactement ce mot-là. Le mot est plutôt religieux. Néanmoins, l'idée qu'il y a derrière le mot est plus ou moins utilisé, puisqu'en politique, on défend des idées, on défend des valeurs, on défend des idéaux, enfin, en théorie, et on les met en avant pour la population, pour que la population puisse croire en quelque chose. Donc, c'est plus ou moins le même principe sur la transcendance. Néanmoins, effectivement, le mot en tant que tel est assez connoté, donc il n'est pas utilisé.
D'accord, mais ça montre un désir de se baser sur un idéal, enfin quand vous parlez de la politique, justement de cette transcendance, des valeurs, etc., on se sent assez éloigné de ce qu'on entend dans la presse, des discours de politique traditionnelle. Comment vous vivez, est-ce que dans votre fonction, d'abord, vous n'êtes pas obligé de retomber les pieds sur terre brutalement? Est-ce que ça… Voilà, est-ce qu'il y a ce problème dans votre fonction?
Dans ma fonction, c'est ce que j'apprécie dans ma fonction, c'est que nous, on travaille pour des projets qui peuvent sembler parfois assez irréalistes. Donc, c'est des projets qu'on essaie de pousser, etc. Notamment un des projets qui est de créer un conseil fédéral de la jeunesse belge. Donc, il y a un projet qui est très compliqué, qu'on essaye de faire passer maintenant. Mais néanmoins, ce n'est pas réellement d'être mis les pieds sur terre ou quelque chose comme ça, puisqu'en fait, on l'a aussi parlé ça dans la tribune, il faut avoir toujours la troisième partie, qui est donc la volonté et l'espoir de faire avancer les choses. Effectivement, si je n'aurais pas eu cette troisième partie-là, effectivement, on pourrait se dire que on ne retrouve pas la transcendance, on est seulement sur des besoins matériels, etc., etc. Et effectivement, là, ça pourrait faire perdre espoir. Mais avec cette troisième partie-là, moi, ce que je me dis quand je suis en train de travailler et quand je travaille notamment avec les autres, avec les politiques, c'est que on doit défendre ces idées-là, défendre des idées qui transcendent, qui apportent de l'espoir, qui apportent un avenir qui est meilleur, même s'il est utopique. Avancer vers un avenir utopique est toujours mieux que ne pas avancer du tout. Et donc, pour moi, c'est peut-être ma jeunesse qui parle, hein, ça c'est possible, mais pour moi, ça ne me démotive pas et ça ne me ramène même pas forcément les pieds sur terre. Je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre pour accomplir les projets, mais pas forcément sur l'idéal en lui-même.
Alors, je vous rassure, l'utopie, c'est effectivement une qualité de la jeunesse, mais ça peut rester toute sa vie. Moi, je travaille tout le temps en tant que bénévole avec des gens qui ont un certain âge, comme moi, et qui sont toujours dans l'utopie. Donc, voilà, sur ce point, je peux vous rassurer. même si on n'est pas très actif, beaucoup moins que vous au niveau de travailler. Vous avez parlé de la troisième partie. C'est quoi les autres parties alors? Parce que si, si vous parlez de la troisième partie, ça veut dire qu'il y a une première et une deuxième. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est?
Alors oui, ça c'est ce qu'on a développé effectivement dans l'article, c'est-à-dire qu'il y a trois grandes parties. C'est-à-dire que qu'est-ce que la religion peut apporter à la politique? C'est d'abord l'idéal. Donc les idéaux, ça donne un sens, ça donne un sens à nos actes parce qu'ils font évoluer pour aller vers le futur. Ensuite, on a la morale qui vont donner un cadre à la société. Et quand on dit morale est aujourd'hui assez connoté d'une certaine, notamment des partis de droite. Néanmoins, Ulysse et moi, quand on a écrit l'article, on concevait la morale comme les fondements d'une société qui ont été discutés par les personnes qui forment cette société-là. Et ensuite, donc la dernière partie, c'est l'espoir qui apporte la volonté. Donc ça, c'est plus ou moins les trois grands thèmes qui sont apportés, selon nous, par la religion au monde politique.
Alors, je reviens sur la morale. En quoi la morale que vous défendez est-elle différente de la morale bourgeoise ou mise en avant par les partis conservateurs qui empêchent d'avancer, notamment sur les problèmes sexuels, sur le droit de choisir sa grossesse ou pas, enfin, etc. En quoi votre morale est-elle différente? Est-ce qu'elle est différente seulement dans les choses que vous proposez ou est-ce qu'elle est différente dans son essence, dans sa conception même?
Alors, pour moi, elle est plutôt dans la conception même, comme vous avez dit. C'est-à-dire que pour nous, la morale, c'est un concept qui est flexible, qui est donc destiné à évoluer en fonction des époques et des sociétés. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on ait une morale qui soit semblable à une morale du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge, dans le royaume de France. Ça, pour nous, ce n'est pas concevable. Et la grande différence aussi, qui est par rapport à des morales plus traditionnelles et traditionalistes, c'est aussi le fait que souvent, on met en avant la morale comme étant une loi universelle. Nous, on considère qu'il n'y a quasiment aucune morale qui l'est. Il y a peut-être une ou deux règles qui peuvent être universelles, mais elles sont tellement rares. Et comme vous l'avez dit, une règle notamment sur le droit à l'avortement n'est en aucun cas une morale universelle. Une morale universelle, par exemple, l'idée qui me vient comme ça à l'esprit, ça pourrait être le droit fondamental des êtres humains à vivre. Cela pourrait être une morale sur laquelle tous les êtres humains pourraient s'y accorder. Mais au moment que ça détruit une partie de l'espèce humaine, ou dans ce sens-là, effectivement, ce n'est plus de la morale.
D'accord. Mais alors là, comment vous mettez en parallèle le droit de vivre et puis le droit à l'avortement, qui est un droit, je suppose, reconnu dans votre parti au niveau des… Vous êtes jeune, vous êtes… Voilà. Comment vous articulez ça, alors?
Alors là, la question, elle est assez simple. C'est-à-dire, où est-ce qu'on définit la vie? Et c'est là où le débat fondamental de la morale entre en place. Et mon avis personnel, c'est que chacun a une définition différente. C'est-à-dire que certains vont définir que c'est au moment de la naissance que l'enfant vit réellement, et d'autres dès le moment qu'il commence à grandir dans le ventre de sa mère. Et effectivement, ces deux visions vont rentrer en conflit. Et je pense que dans une société, quand il y a un conflit comme ça sur la morale, il faut que les deux côtés peuvent être possibles. Parce que, notamment, quand on regarde dans nos sociétés actuelles, les femmes qui veulent avorter et qui conçoivent donc la vie de l'enfant comme étant celle à la naissance peuvent le faire. Et les femmes qui ne désirent pas avorter parce qu'elles conçoivent que l'enfant est déjà vivant dans leur ventre, ne sont pas obligés d'avorter. Donc, dans les deux cas, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et là, le problème étant que si on commence à universaliser cette morale-là, alors que pas toute la société est d'accord, on va commencer à obliger des personnes à le faire, comme aux États-Unis. Enfin, en empêcher plutôt dans ce cas-là.
Oui, oui, je comprends. D'accord. Et alors, je reviens au besoin de transcendance. Alors, vous parlez de besoin de transcendance et vous l'opposez aux intérêts que certains, par exemple, le communisme a l'intérêt de classe, la classe ouvrière. Le nationalisme a l'intérêt, voit le peuple regroupé en nations. Les idéologies extrémistes, donc une prétendue supériorité d'une race. Alors, comment opposer cette notion d'intérêt à cette transcendance? Enfin, comment cette transcendance peut-elle bousculer justement ces intérêts, je pourrais dire, égoïstes et en même temps partagés par certains?
Alors, en fait, en tant qu'humain, nous travaillons, nous fonctionnons en termes d'intérêt. Enfin, à mon avis, nous, dans l'évolution aussi de la société, nous passons d'une forme d'intérêt à un autre. Les formes d'idéologie politique que vous venez de dire ont chacune mis en avant l'intérêt d'un groupe différent. La transcendance qui peut apporter d'intéressant, c'est que c'est la transcendance vers quelque chose, c'est un mouvement. Et c'est un mouvement qui doit apporter une grande partie de la population ou toute la population. Là où il y a un lien entre les deux, c'est que même ces groupes-là vont transcender. C'est-à-dire que le groupe qu'ils veulent avoir, donc par exemple pour le communiste, le prolétariat, ils vont essayer de transcender le prolétariat pour qu'il se soulève et qu'il crée le monde prolétaire. Néanmoins, moi, il m'est d'avis que l'aspect intéressant aussi dans la religion et dans la transcendance religieuse, c'est que celle-ci est universelle. Dans la plupart des idéologies, on n'a pas de transcendance universelle, car ça va se toujours diviser entre l'ennemi et le peuple, le prolétariat, la personne qu'on cherche à défendre. Dans la religion, c'est censé être universel et que la transcendance vers Dieu est commune à tous les hommes, surtout dans le protestantisme où c'est personnel. Et donc je pense que là, il y a une différence à faire assez intéressante et qui, dans une forme de transcendance politique et qui deviendrait laïque, on pourrait réfléchir à une forme de est-ce qu'il ne serait pas temps de créer une idéologie, de penser une idéologie qui transcende pour l'intégralité de la population humaine vers une même utopie.
Oui, parce que l'histoire de l'intérêt, c'est vrai que c'est humain, c'est même animal. Beaucoup d'animaux se groupent pour survivre, pour se nourrir, etc. Donc là, vous mettez l'homme, vous lui prêtez des capacités différentes, et c'est là que peut se mettre la transcendance, par exemple, pour quelqu'un qui n'aurait pas cette croyance en Dieu que vous. Vous professez ou dans votre famille, c'est ça?
C'est cela, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce ne soit pas une croyance en Dieu, mais qu'il soit une croyance en l'espèce humaine et en ce qu'elle a aussi de bon. Et donc, c'est-à-dire que, naturellement, ça doit devenir politique. Une telle forme de transcendance doit devenir politique, doit devenir laïque, mais doit être réfléchie pour que chaque homme puisse s'y retrouver en tant qu'humain et non plus seulement en tant que membre d'une nationalité, membre d'un groupe, membre d'une classe, etc., etc.
Alors, on va faire une pause musicale. Vous pouvez nous dire ce que vous avez choisi, juste Klein, c'est ça?
Exactement. Donc ça, c'était une musique de l'Eurovision de l'année dernière, qui était donc le chanteur néerlandais. Donc, c'est une musique Europapa qui est une musique très sympathique. Moi, je l'aime bien.
J'ai écouté, j'ai trouvé ça très sympa. Alors, c'est en néerlandais. Bon, il y avait la traduction en anglais, ce qui fait que sur le clip que j'ai vu. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, pour les auditeurs qui vont entendre cette musique, mais qui ne vont pas avoir les sous-titres que j'ai eus, quel est le message? Qu'est-ce que ça dit, cette...
Globalement, c'est la musique, c'est donc une musique assez entraînante, mais qui met quand même en avant les avantages qu'apporte l'Europe actuellement, notamment sur le voyage, c'est-à-dire sur l'ouverture des frontières, l'ouverture des cultures, etc. etc. Et Joost Klein, donc le chanteur, apporte donc dans cette très bonne énergie un peu cette vision-là qu'il a aussi de l'Europe et de ce qu'elle apporte.
Eh bien, on écoute ce morceau et on se retrouve ensuite. Europe, let's come together. It's now or never. I love you all.
Welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa.
Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Nederland, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please? Zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, 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 pa.
Van mezelf, roep de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen pael. Ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Oete. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa, pa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa,
pa. Welkom in Europa, jongen!
Het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.
Alors, on se retrouve avec Nathan pour poursuivre notre conversation sur... sur ce qu'il fait donc dans ce parti Volt donc de jeunes européens fédéralistes. Vous venez de parler, là on a parlé de la musique et vous avez parlé donc de l'ouverture, de l'invitation au voyage, de l'invitation à l'ouverture des frontières. Est-ce que vous n'êtes pas complètement en décalage avec le monde actuel? Est-ce que votre... je dirais votre utopie, mais dans le bon sens du terme, vous empêche de voir que ce n'est pas gagné du tout.
Alors, pour ce qui est de l'ouverture des frontières et du partage, il faut quand même dire que dans la majorité, dans la très grande majorité des pays de l'Union européenne, les récents sondages montrent que les populations sont contentes et voient le bénéfice qu'apporte notamment l'espace Schengen et l'Europe. Ce qu'il faut dire aussi, dans le même sens, c'est que sur un plan purement politique, le fait que l'Union ait des frontières ouvertes et des échanges, et notamment des programmes comme Erasmus+, apporte bien plus d'avantages que d'inconvénients, et le Brexit l'a parfaitement montré. Et Aujourd'hui, certains essayent de faire croire le contraire, mais notamment le fameux cheval de l'extrême droite qui est l'immigration, et où il faut réaffirmer le contrôle sur les frontières, eh bien, il faut quand même se dire que avec le Brexit, l'Angleterre a eu plus d'émigrés que durant sa période dans l'Union européenne. Donc, il y a beaucoup d'avantages qui sont là. Et mon espoir aujourd'hui et mon utopie sont devenus bien plus grands depuis que j'ai vu le mouvement qu'il y a eu suite à l'arrivée du Trumpisme aux États-Unis, où j'ai vraiment senti que les Européens se sont enfin réveillés et se sont dit « Tiens, il est peut-être temps qu'on se regroupe autour de nous, autour de notre diversité pour retrouver notre force. » Et ça, donc moi, mon utopie, au lieu de faiblir avec les mouvements d'extrême droite qui montent, au lieu de ça, elle grandit.
Et votre dialogue avec la France, d'un autre côté, avec les partis français, avec les adhérents français, est-ce que ce dialogue n'est pas gêné par votre spiritualité croyante ou qui ne se montre pas forcément croyante, mais que l'on sent, vous avez sans doute eu l'expérience de la laïcité à la française. Je ne parle pas de Strasbourg qui est spécial puisque c'est le Concordat, mais comment vous pouvez dialoguer avec quelqu'un qui, dès qu'on parle de Dieu, se met aussitôt à voir aussitôt la personne d'extrême droite ou de croire que c'est un catholique intégriste ou voilà, comment vous voyez la société française à ce niveau-là?
Alors, là, oui, effectivement, la France a une crispation. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de grandir en Alsace où la parole était un peu plus libérée sur ce sujet. Néanmoins, là où je fais une différence que beaucoup de gens ne font pas, c'est qu'il y a une différence entre la croyance et, on va dire, la tradition, la logique religieuse. C'est-à-dire que la croyance, effectivement, est quelque chose de purement privé. C'est-à-dire qu'on peut parler de Dieu, mais si la personne en face ne veut pas forcément parler de ça, il faut être tout à fait en accord avec cela. Néanmoins, surtout en politique, il faut être honnête sur ce qu'on croit et sur ce qu'on est. Parce que en politique, en plus de défendre une idée, on est quand même une personne. Et donc, il y a le côté religieux, que ça soit catholique, protestant, musulman ou juif, apporte à chaque fois des logiques et des traditions différentes qui vont aussi nous façonner comme être humain. C'est-à-dire que je prends l'exemple du protestantisme, notamment du protestantisme réformé dont je fais partie, qui a vraiment une forme où la croyance est basée sur la relation individuelle avec Dieu, donc qui implique aussi que tous les hommes sont égaux à leur relation avec Dieu, contrairement par exemple aux catholiques, où il y a une hiérarchie de la relation, ou aussi le fait que chez le protestantisme, il y a aussi cette forme d'étude. On doit avoir l'étude pour pouvoir parler de quelque chose. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être transposées comme principe au monde politique, notamment le fait que, pour moi, cette forme d'étude, par exemple, il faut savoir apprendre les sujets, et puis savoir en discuter et en débattre avec des personnes qui ne sont pas forcément du même avis que vous, tant que ces personnes-là ont aussi légitimement fait leurs recherches et trouvé leur voie. Et donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut qu'on apprenne, cette différence fondamentale, parce que dire que nous ne sommes que la religion n'a aucun impact sur la société ou sur notre personne, c'est tout ça, c'est mentir. Et je pense qu'aujourd'hui, en politique, il serait quand même assez temps qu'on arrête de mentir.
Et alors, oui, ça, c'est une bonne réflexion. Votre réflexion que vous venez de donner, qui est dans votre personne, on le sent bien, vous la mettez en… Comment dirais-je, elle vous sert dans votre rôle de directeur adjoint de cabinet, elle vous aide, elle vous apporte des éléments ou pas?
Tout d'abord, le concept, enfin la société belge est assez différente sur le point de vue de la religion. Ils sont plus ouverts sur le sujet, notamment par l'existence de partis qui sont ouvertement religieux. Je pense notamment au CDNV, qui sont les chrétiens démocrates flamands. Néanmoins, comme j'ai dit, cette logique, cette tradition protestante que j'ai, elle m'aide beaucoup parce que je pense qu'elle est fondamentalement démocratique et qu'elle est aussi pensée pour une relation de groupe. Et dans le cabinet, j'ai beaucoup de chance puisque monsieur le commissaire est très ouvert et on se connaît aussi personnellement très bien. Et donc, c'est vraiment basé sur la discussion, sur... chacun apporte ses idées et on en discute, etc., etc. Donc, cette logique protestante, dans ce cadre-là, m'aide beaucoup.
Mais cette logique protestante, bon, qui est plutôt libérale, enfin, qui est plutôt le protestantisme historique, elle est, en tout cas en France, elle est en baisse. Le protestantisme ne survit statistiquement que grâce au courant évangélique, qui d'ailleurs peuvent prendre beaucoup de points, qui d'ailleurs ont pas mal de points communs avec les réformés. Mais est-ce que ça ne fait pas peur d'avoir justement cette tendance qui est quand même en baisse? Alors, je ne sais pas si dans les autres pays, c'est aussi en baisse, mais est-ce que vous n'avez pas peur de représenter quelque chose d'un peu qui n'est plus de mode ou qui n'est plus adapté à une société qui va vite, qui ne prend pas le temps de parler, qui voilà, c'est peut-être une question. Je fais peut-être un peu trop de questions dans ma question. Je ne sais pas.
Alors non, ça devrait aller. Mais je pense que aujourd'hui, il faut savoir être ferme sur ce qu'on croit et sur ce qu'on pense, surtout dans un monde où il y a le monde comme vous l'avez dit bouge très vite. Et très souvent, on passe des points de non-retour sans forcément le vouloir, que ça soit sur le niveau technique, le niveau politique, le niveau de la discussion, la division de la société, etc., etc. Et je pense qu'il faut avoir des points forts sur lesquels se tenir. Et aujourd'hui, je ne vois pas forcément la baisse du protestantisme libéral comme quelque chose de forcément mauvais, mais je pense surtout que le problème ne vient pas forcément du modèle qu'on apporte, mais plutôt de la façon qu'on apporte et de la façon dont on parle à la société et aux gens. C'est-à-dire, je pense qu'il faut une évolution de façon dans nos églises réformées de chercher le contact et donc d'apporter cette réflexion-là. Et je pense qu'elle est recherchée chez les gens aussi, c'est une partie de la population, de la réflexion, de pouvoir être mis autour de la table, de pouvoir discuter, et que ça soit au niveau religieux, mais surtout au niveau politique. Parce qu'il y a une telle division, une telle fracture de la société, les gens ne savent plus se parler, et le seul résultat qui vient à cela, c'est deux choses. Un, le fait que nous allons dans une société qui va devenir de plus en plus violente entre les différents groupes, mais aussi le fait que nous allons perdre l'essence même de ce qui est la démocratie et donc que nous allons perdre les fondements sur lesquels on repose tout notre système.
Mais vous parlez de la façon dont on parle. Alors, je vous écoute depuis un certain temps avec beaucoup de plaisir. Vous êtes quelqu'un de très cultivé, on sent une réflexion très, très intense chez vous. Dans votre parti, si c'est la même chose, est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas savoir parler au peuple? On le voit, le succès des démagogies, du populisme, c'est de dire des choses n'importe quoi, mais avec des slogans qui marchent. On le voit avec Trump. On dit n'importe quoi, tout le monde sait que c'est faux, mais il suffit de l'affirmer. On peut affirmer n'importe quoi, à la limite que la Terre est plate. L'instant qu'on le dit, ça devient une opinion. Et c'est plus scientifique. Alors, comment aller contre ça? Parce qu'on voit très bien que vous êtes complètement à l'opposé, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ou qui, du moins, ne savent lire ou entendre que les discours simplistes. Comment vous allez résoudre ça?
Alors, tout d'abord, moi, je fais une différence dans le populisme. Et il y a le populisme qu'on utilise de terme aujourd'hui pour définir plutôt les idées, donc des partis d'extrême droite ou des mouvements comme le trumpisme. Mais néanmoins, le populisme, à la base, ça reste une stratégie politique. Et donc, c'est une stratégie politique qui fonctionne dans les deux sens. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, en termes de stratégie, il faut être populiste. Parce que la société a évolué d'une telle façon que pour toucher les gens, en tout cas dans la masse, il faut des termes simples, il faut des mots chocs, etc., etc. Néanmoins, il y a toujours la différence de d'où proviennent les idées. Et là, d'un côté, que dans les populismes d'extrême droite, Trumpus, les idées sont la majorité du temps soit des idées, deux, trois idées très fortes et tout le reste pour un peu montrer qu'ils font un minimum de travail, ou plutôt des idées ou des non-sens qu'ils font passer comme étant la vérité absolue. On peut utiliser le populisme pour faire passer des idées qui, elles, réellement vont avoir un impact, un sens, et cela sur le long terme. Je pense notamment qu'il ne faut pas avoir peur de dire aujourd'hui qu'il nous faut une armée européenne pour notre défense, pour défendre la souveraineté de l'Europe, pour défendre la démocratie. Et ça, il nous faut. Et je pense qu'aujourd'hui, comme il y a cette confusion entre le populisme des idées et le populisme de la stratégie, on a peur d'utiliser la stratégie populiste et donc on se fait mettre un peu de côté. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est que même si les gens dans la masse aiment suivre les idées populistes, donc dans leur stratégie, dans leur simplisme, néanmoins, moi, je pense et je vois aussi, mes parents ont un très chouette projet en plein milieu des Vosges alsaciennes, que les gens cherchent le contact, cherchent à discuter. Que ce soit pour du contact très simple, juste de discuter de la pluie, du beau temps et de ce qui se passe, mais aussi de la société, de ce qui arrive, etc., etc. Et je pense qu'il faut aussi aller chercher ce contact-là, mais pas un contact qui soit un contact directement politique, voter pour nous, etc., mais plus demander la question, OK, aujourd'hui, pour vous, c'est quoi le problème? C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce que vous, dans votre vie personnelle, vous avez, etc., etc. Et de donner, bon, ça, c'est mon petit côté suisse qui parle un peu plus, hein, de donner un peu plus de démocratie directe au niveau notamment des communes. Et je pense que ça, aujourd'hui, notamment en France, c'est très important.
Alors, si je résume bien, il faut effectivement, donc, dans ce que vous venez de dire, dissocier les idées du populisme qui sont mauvaises, enfin, avec le vecteur, la stratégie, c'est-à-dire les méthodes de communication. Alors, j'ai envie de vous poser la question, et la radio là-dedans, est-ce que vous le voyez comme un… Parce que nous, on est une radio associative et on ne voudrait pas s'enfermer justement avec notre petit territoire autour de Montpellier, bon, principalement, autour de nos auditeurs, mais donner la parole. Est-ce que vous avez des… D'abord, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez des contacts avec des médias comme ça? Est-ce que vous avez des solutions, enfin des idées? Voilà, là, c'est un débat qui m'intéresse dans sa partie pratique pour nous à cette radio.
Donc, pour faire développer votre radio, si j'ai bien compris.
Pas dans le but de la développer, mais dans le but d'élargir, dans le but de donner la parole, dans le but d'être ce vecteur dont vous parlez, cette stratégie de… Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste une minute. Alors, on pourra poursuivre une autre fois, mais rapidement, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez?
Alors, très rapidement, oui. Moi, je pense qu'effectivement, il faut aller au contact des gens. Il faut parfois prendre le temps de faire les discussions comme on l'a fait maintenant. Il faut parfois avoir le temps de prendre le contact avec les gens directement sur le terrain. Et moi, je pense que la radio est un très bon moyen pour cela. Un moyen où on peut prendre du temps.
Eh bien, merci beaucoup. J'étais ravie de cette conversation. J'espère que les auditeurs ont pu profiter aussi. Alors, je vous remercie, Nathan. Et puis, je remercie nos auditeurs. Je leur donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez réagir à un protestant, peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. Au revoir.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.